Il était une fois un homme si sage qu'il cacha son visage dans le sable et y brûla ses yeux. Quand il sut qu'il ne verrait plus, il ne fut pas misérable, car il lui restait sa vision qui fit de lui un saint. Poème d'enfant, extrait de l'histoire de Muad'Dib. Paul attendait dans l'ombre, au dehors. Sa vision lui révélait que la nuit était venue, que le clair de lune détachait la silhouette du mausolée, haut sur la gauche, au sommet du roc du Menton. Cet endroit était saturé de souvenirs. C'était son premier siège, celui où lui et Shiny. Je ne dois pas penser à elle, se dit-il. Le champ étréci de sa vision mettait en évidence les changements qui étaient intervenus en ces lieux. À droite, il y avait un bouquet de palmiers. Plus loin, la ligne d'argent d'un cana brillait entre les dunes. De l'eau dans le désert. Il se souvenait d'une rivière toute différente sur son monde natal, Caladan. Jamais encore il n'avait compris quel trésor représentait ce simple cours d'eau boueux. Un trésor. L'homme qui venait d'apparaître derrière lui fit entendre un toussotement discret. Paul tendit les mains et prit le tableau magnétique recouvert d'une simple feuille de papier métallique. Ses gestes étaient lents comme le cours du cana. Sa vision avançait toujours, mais il répugnait maintenant à la suivre. « Pardonnez-moi, sire, le traité de Semboulé. Votre signature, je peux lire, » dit-il d'un ton sec. Il écrivit « Atréide Imper » et rendit le tableau à l'homme, le posant directement dans sa main tendue, conscient de la crainte que ce simple geste inspirait. L'homme s'enfuit littéralement. Paul se tourna de nouveau vers le paysage. « Terre laide et aride, » songea-t-il. Il imaginait écraser le soleil sous le ventre monstrueux de la chaleur. Flancs de sable et flaques d'ombre. Démons du vent dansant sur les rochers, leurs ventres étroits et mouvants pleins de cristaux d'ocre. Terre laide et aride, mais riche aussi. Vaste succession de gorges et de crevasses, de sites étroits et sombres, et d'immensités vides et battues par les vents, de falaises remparts et de chaînes déchiquetées. Terre laide et aride qui ne demandait que de l'eau et de l'amour. La vie transformait ces espaces redoutables en forme et en mouvement. Tel était le message du désert. Paul, en cet instant, aurait voulu se ruer à l'intérieur du siège et hurler à tous les serviteurs, gardes, domestiques. « Vous voulez adorer quelque chose? Alors adorez la vie !» Jusqu'à sa dernière graine, jusqu'à sa plus humble manifestation grouillante. Tous nous faisons partie de cette beauté. Mais ils ne le comprendraient pas. Au cœur du désert, ils étaient eux-mêmes d'infinis déserts. Pour eux, les choses qui poussaient dans le sable ne dessinaient jamais de danse verte. Il serra les poings. Il voulait arrêter le cours de la vision, fuir son propre esprit. C'était une bête qui s'apprêtait à le dévorer. La perception était en lui, lourde, gonflée de toute la vie absorbée, saturée de trop nombreuses expériences. Désespérément, il lutta pour bannir ses pensées. Les étoiles. Toutes ces étoiles qui brillaient au-dessus de lui, un homme devait être à demi-fou pour oser imaginer qu'il pouvait régner sur une seule larme de clarté dans ce volume insensé d'espace. Inimaginable. Comme le nombre des sujets sur lesquels l'Empire prétendait exercer son pouvoir. Des sujets? Adorateurs et ennemis, plutôt. Y en avait-il une seule parmi eux qui fût capable de voir plus loin que les rigides croyances? Qui eût échappé au destin étroit de ses préjugés? Pas même un empereur ne le pouvait. Il avait vécu une vie de possession, tenté de créer un univers à son image. Mais cet univers exultant jetait maintenant sur lui ses vagues silencieuses. « Je crache sur Dune, » se dit-il. « Je lui donne mon eau. » Ce mythe qu'il avait façonné par des mouvements complexes, par l'imagination, l'amour et le clair de lune, par des prières plus anciennes qu'Adam, des falaises grises et des ombres écarlates, des lamentations, des fleuves de martyrs. Ce mythe, sur quoi s'achevait-il? Lorsque les vagues se seraient retirées, les plages du temps, vides, lavées, n'offriraient plus que les grains brillants du souvenir. Était-ce cela la genèse dorée de l'homme? Un crissement de sable lui apprit que le Gola était venu le rejoindre. « Tu m'as évité aujourd'hui, Duncan, » dit-il. « Il est dangereux pour vous de m'appeler ainsi ?»«
Je sais. »«
Je suis venu vous avertir, monseigneur. »«
Je sais. »
Et le Gola expliqua quelle compulsion le nain avait inscrite en lui. « En connais-tu la nature ?» demanda Paul.
« La violence !»
Et Paul sentit qu'il avait atteint un lieu qui n'avait cessé de l'attirer depuis le commencement. Un lieu où il demeurait en suspens. Le djihad, en s'emparant de lui, l'avait placé sur une trajectoire dont l'effroyable gravité du futur elle-même ne pourrait l'arracher.
« Nulle violence ne viendra de Duncan, » murmura-t-il.
« Mais, sire, dis-moi ce que tu vois autour de nous. » « Monseigneur,
le désert, comment est-il cette nuit ? » ?»«
Ne le voyez-vous donc pas ? » ?»«
Je n'ai plus Dieu, Duncan. » »«
Mais
je n'ai que ma vision et j'aimerais ne plus la voir. » »«
Je meurs de préscience, Duncan.
Savais-tu cela ? » ?»«
Peut-être. Peut-être ce que vous redoutez n'arrivera-t-il pas ? » ?»«
Comment ? » ?»«
Nier mon oracle ? » ?»«
Comment le pourrais-je quand je l'ai vu se réaliser 1000 fois ? »
Pour les gens, c'est un pouvoir, un don, mais c'est une calamité.
Elle ne me permettra pas de quitter ma vie là où je l'ai trouvée.
Monseigneur, murmura le Gola, ce n'est pas jeune maître. Vous...
Il se tut.
Comment m'as-tu appelé, Duncan ? Demanda Paul, conscient du trouble profond du Gola.
Pendant un instant, j'ai...
Tu m'as appelé jeune maître.
Oui, c'est vrai.
C'est ainsi que m'appelait toujours Duncan.
Paul tendit la main et effleura le visage du Gola.
Est-ce le résultat de ton entraînement, Tleilaxu ?
Non.
Paul inclina la tête.
Qu'est-ce donc alors ?
C'est venu de moi.
Servirais-tu deux maîtres ?
Peut-être.
Libère-toi du Gola, Duncan.
Comment ?
Tu es humain, fais une chose humaine.
Je suis un Gola,
mais ta chair est humaine, c'est Duncan qui est dedans.
Il y a quelque chose,
peu importe de quelle façon tu t'y prendras, dit Paul, mais tu réussiras.
Vous en avez eu la préscience ?
Maudite soit la préscience, s'exclama Paul.
Il se retourna. La vision se remettait en mouvement, elle hésitait, elle était occultée par moments, mais rien ne pourrait l'arrêter.
Monseigneur, si vous...
Silence !
Entends-tu cela ?
Quoi, monseigneur ?
Paul secoua la tête. Duncan n'avait pas entendu. Se pouvait-il qu'il eût imaginé ce son ? Très loin dans le désert, il lui semblait que quelqu'un avait crié son nom.
Ouzoul. Ouzoul.
Qu'y a-t-il, monseigneur ?
Paul ne répondit pas. On l'observait. Quelque part, dans les ombres de la nuit, il y avait quelque chose.
Quelque chose ?
Non. Quelqu'un.
Les choses étaient douces, murmura-t-il. Et tu étais la plus douce.
Que dites-vous, monseigneur ?
C'est l'avenir.
Cet univers humain, amorphe, qui l'entourait, avait bougé. Il s'était accordé à la vision et avait lancé une note puissante dont les échos fantômes persisteraient.
« Je ne comprends pas, monseigneur, » dit le Gola.
« Lorsqu'il reste trop longtemps loin du désert, » dit Paul, « un Fremen meurt. Les Fremen disent qu'il meurt du mal d'eau. N'est-ce pas étrange ?»«
Très étrange, monseigneur. »
Paul plongeait dans les souvenirs, essayant de retrouver le souffle de Shiny, la nuit auprès de lui. Où trouver le réconfort, songea-t-il. Il ne parvenait à retrouver que l'image de Shiny le jour de leur départ pour le désert. Au petit déjeuner, elle s'était montrée nerveuse, irritable. Il avait revêtu sous la robe Fremen le manteau noir marqué de la crête de faucon des Atréides.
Pourquoi as-tu mis ce vieux vêtement ?
Avait demandé Shiny.
Tu es l'empereur ?
Même l'empereur a ses habits préférés, avait-il répondu. Sans raison explicable, ces paroles avaient fait naître des larmes dans les yeux de Shiny. Dans toute leur vie, C'était seulement la seconde fois qu'il voyait ainsi s'effacer le rideau des inhibitions Fremen. Et à présent, immobile et silencieux au creux de la nuit, il portait la main à ses joues et y rencontrait de l'humidité. « Donner de l'eau aux morts ?» se dit-il. C'était son visage qu'il touchait, et pourtant ce n'était pas le sien. Sous le vent, sa peau humide devenait glacée. Un rêve fragile se forma, se dissipa. Quelque chose bougeait dans sa poitrine. Était-ce un malaise? Combien amer, combien faible était cet autre émoi qui offrait son humidité aux morts. Le sable crissait dans le vent et la peau, maintenant sèche, était de nouveau la sienne. Mais à qui appartenait ce frémissement qui demeurait dans sa poitrine? Alors ils entendirent la plainte, loin dans les profondeurs du siège. Elle se fit plus forte. Il y eut un brusque éclat de lumière. Quelqu'un sortait du siège. Le Gola pivota sur lui-même. Il vit un homme qui venait vers eux et qui souriait. Non, il ne souriait pas. C'était le chagrin qui déformait ses traits. C'était un lieutenant Fedaikin du nom de Tandis. D'autres gens le suivaient et tous étaient silencieux devant Muad Dib. « Shiny !» commença Tandis. « Elle est morte, » dit Paul. J'ai entendu son appel. Il se tourna vers le siège. Il connaissait ce lieu. Un lieu où il ne pourrait se cacher. Sa vision s'accéléra, se précipita, illuminant la foule entière. Il vit Tandis et perçut tout son chagrin, sa peur, sa colère. « Elle est partie, » dit-il. Le Gola entendit les mots. Il jaillissait d'une couronne éblouissante. Il lui brûlait la poitrine, lui déchirait le dos, flamboyait dans ses yeux de métal. Il sentit que sa main droite se portait vers le couteau, à sa ceinture. Ses pensées étaient éclatées, démantelées. Il était une marionnette dont les fils étaient rattachés à l'effroyable couronne de lumière. Il obéissait à des ordres, des désirs étrangers. Des sons gonflèrent sa bouche. Il émit un son répétitif et terrifiant. « Ra, ra, ra !» Le couteau se leva pour frapper. Dans cette fraction de seconde, il retrouva sa propre voix et les mots jaillirent, rauques, violents. « Courez ! Courez, jeune maître !»« Nous ne courrons pas, » dit Paul. « Nous irons avec dignité. Nous ferons ce qu'il convient de faire. » Les muscles du Gola se bloquèrent brutalement. Il frissonna, tituba. Ce qu'il convient de faire. Les mots étaient comme la forme d'argent d'un grand poisson surgi de l'eau profonde. Le vieux duc avait dit cela autrefois, le grand-père de Paul. Le jeune maître avait un peu du vieil homme en lui. Ce qu'il convient de faire. Les mots se déployaient maintenant dans la conscience du Gola. Il avait conscience de vivre deux existences. Hate Idaho, hate Idaho. Il n'était plus qu'une chaîne immobile d'existence relative, singulière, solitaire. Des souvenirs anciens émergeaient. Il les identifiait, les ajustait à des compréhensions nouvelles, intégrait une nouvelle perception. Une nouvelle persona apparaissait, qui établissait une tyrannie interne et temporaire. Mais la synthèse restait chargée d'un potentiel de désordre. Les événements exigeaient un ajustement temporaire. Le jeune maître avait besoin de lui. Et ce fut fait. Il était Duncan Idaho et avait en lui tous les souvenirs de Hate, comme s'il les avait conservés secrètement pour les libérer en une flamboyante catalyse. La couronne se dispersa. Il rejeta les compulsions que l'axu. Reste auprès de moi, Duncan, dit Paul. Je vais avoir besoin de toi pour de nombreuses choses. Et comme Idaho demeurait figé dans la transe, il lança d'une voix forte, « Duncan !»«
Oui, je suis Duncan. »«
Évidemment. Tu viens de te retrouver. À présent, nous allons rentrer. » Idaho le suivit. C'était un peu comme jadis, mais pas vraiment pourtant. Libéré de l'emprise des Tleilaxu, il pouvait apprécier ce qu'il lui avait donné. L'éducation Zensuni lui avait permis de supporter le choc des événements. L'esprit Mentat avait repoussé la peur, dominé la source. Tout se passait comme si sa conscience tout entière, maintenant, observait l'extérieur dans un état d'émerveillement infini. Il avait été mort, il était vivant. « Sire, » dit Tandis comme il s'approchait, « cette femme, Lirna,
dit qu'elle veut vous voir. Je lui ai ordonné d'attendre.
Merci, dit Paul.
La naissance, j'ai vu les médics. Vous avez deux enfants, vivants et sains.
Deux ?
Paul défaillit et se retint en s'appuyant sur le bras de Duncan. Un garçon et une fille, dit Andis.
Je les ai vus, de beaux bébés Fremen.
Comment est-elle morte ? Demanda Paul dans un souffle.
Monseigneur ?
Shiny.
C'est la naissance, monseigneur. Ils disent que cela a en quelque sorte dévoré son organisme. Je ne comprends pas ce qu'ils veulent dire, mais ce sont leurs paroles.
Conduis-moi auprès d'elle.
Monseigneur ?
Conduis-moi auprès d'elle.
Nous nous y rendons, monseigneur.
Dundee se pencha pour demander.
Pourquoi votre Gola tient-il un couteau, monseigneur ?
Duncan, rengaine ton arme, ordonna Paul. Le temps de la violence est passé.
Comme il parlait, il se sentait plus proche de sa voix que du mécanisme qui avait formé ses sons.
Deux bébés.
Il n'y en avait eu qu'un seul dans la vision. Pourtant, tous ces instants correspondaient à la vision. Il y avait ici une personne qui éprouvait de la douleur et de la colère.
Quelqu'un.
Sa perception demeurait inscrite sur un effroyable moulin à souvenirs.
Deux bébés.
Il trébucha à nouveau.
Shiny. Shiny.
Gémissaient ses pensées.
Il n'y avait pas d'autre moyen.
Shiny, mon aimé, crois-moi. Cette mort pour toi était plus rapide et plus douce.
Ils auraient gardé nos enfants en otage. Ils t'auraient exhibé dans une cage, jeté dans un puits d'esclaves et t'auraient sali de ma mort.
Mais ainsi nous les détruisons et sauvons nos enfants.
Nos enfants ?
Pour la troisième fois, il trébucha.
J'ai permis cela, se dit-il.
Je devrais me sentir coupable.